7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour à tous, chers auditeurs, merci d'être avec nous sur Ligne Droite ce matin. Nous sommes donc en compagnie d'Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Magda, bonjour à tous.
Et nous recevons à 8h25 Guillaume Boutard, qui est jeune élu local et qui va nous parler donc des enjeux sur son territoire notamment. Et tout de suite, nous recevons Adrien Nave.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Nous recevons donc pour ce grand entretien Adrien Nave, qui est conseiller municipal de Dunkerque et conseiller régional des Hauts-de-France, mais aussi sapeur-pompier volontaire et entrepreneur. Bonjour Adrien Nave.
Bonjour Magda, bonjour à tous.
Alors nous allons parler aujourd'hui de la réalité du mandat d'élu local. Comment travaille un conseiller municipal d'opposition, comment défendre des propositions quand nous ne sommes pas majoritaires, mais aussi quels sont aujourd'hui les grands enjeux pour Dunkerque. Alors tout d'abord, Adrien Nave, pour commencer, vous êtes aujourd'hui donc engagé à plusieurs niveaux. Vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller régional. Donc concrètement, à quoi ressemble votre quotidien d'élu municipal et qu'est-ce que les habitants ne voient pas forcément derrière tout ce qui concerne un conseil municipal?
C'est tout d'abord les rendez-vous, les nombreux rendez-vous qu'on peut avoir avec les citoyens, puisqu'évidemment, être élu dans un conseil municipal, c'est se faire le relais aussi de la voix de nos concitoyens. Et donc, ce que les gens ne peuvent pas forcément voir, c'est ces rendez-vous que nous avons avec les nombreux concitoyens. Et puis, derrière, toutes ces réunions de préparation des conseils municipaux, des idées qu'on développe et que nous continuons à faire évoluer tout au long des différents mandats que nous occupons. Donc, tout ça, voilà, c'est du temps. Un mandat de conseiller municipal d'opposition, pour qu'il soit bien fait, il faut y consacrer du temps. Parfois au détriment de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Nous avons plusieurs élus sur le Dunkerquois qui passent du temps pour réussir leur mandat. Et donc forcément, voilà, il faut que les citoyens soient conscients que c'est un engagement chronophage et qui nécessite parfois des sacrifices.
Et vous avez donc 5 élus au conseil municipal de Dunkerque sur votre liste, c'est bien?
Alors,
ça
il y a plusieurs élus sur le Dunkerquois. On a 3 élus à l'agglomération, à la communauté urbaine de Dunkerque. On a 5 élus effectivement au conseil municipal de Dunkerque. Et puis après, on a des élus également dans les communes associées. Donc Dunkerque est composé de 3 communes associées avec Saint-Paul-sur-Mer et Formardic. Là, on a 6 élus au conseil consultatif de Saint-Paul-sur-Mer et 4 élus au conseil consultatif de Formardic.
Et comment du coup fait-on pour faire entendre sa voix quand justement on n'est pas de la majorité, quand on est 5 au conseil? Comment l'opposition fait pour réellement peser sur les décisions prises par la ville?
On ne va pas se mentir, c'est très compliqué, puisqu'évidemment, par exemple à Dunkerque, on est 5 élus sur 53 élus, donc évidemment, vos cinq voix ne pèsent pas beaucoup. Par contre, évidemment, nous avons, lors de l'élection municipale, présenté un projet. Ce projet a recueilli pour Dunkerque 22% des voix, et donc nous avons le devoir de le défendre à travers les délibérations qui nous sont présentées par la majorité, notre projet. Nous avons également d'autres armes en tant que conseiller municipal d'opposition, les amendements, les motions, les vœux. Ces armes nous permettent aussi de mettre en avant nos propositions et donc de faire que la majorité se prononce sur un certain nombre de dossiers que nous avons défendus lors de l'élection municipale. Évidemment, c'est jamais simple. Je veux dire, 99% des cas, nos propositions sont rejetées puisque la majorité applique son projet. Et voilà, il faut faire avec. Donc on a quand même ce rôle de porte-voix, de défense du projet que nous avons présenté. Et puis après, derrière, une fois qu'on a fait, il faut surtout faire savoir. Et ça, c'est le principal, c'est dire aux électeurs ce que nous avons défendu lors des conseils municipaux.
Vous dites justement vouloir continuer à défendre les propositions de votre programme municipal. Comment vous allez essayer de les défendre? Comment vous allez continuer à travailler, à proposer, même lorsque les idées sont justement, disons, pas adoptées, minoritaires?
Il y a ce que je disais, tout ce travail de terrain, de rencontre des habitants, et puis après les armes qu'on a au conseil municipal. Là, je prends l'exemple sur Dunkerque. Dans le projet municipal de la majorité, il y avait une baisse des tarifs de la restauration municipale de 20% qui a été appliquée. Au moment où a été présentée cette délibération, nous avions, au moment de l'élection municipale, fait une autre proposition, c'est-à-dire de créer 2 tarifs. Aujourd'hui, il y a 23 tarifs qui sont basés sur les quotients familiaux. C'est, voilà, c'est, C'est une délibération qui est invisible, qui est compliquée, et donc le fait de simplifier cette délibération permettait une meilleure visibilité et permettait surtout de rendre du pouvoir d'achat aux Dunkerquois, puisque nous avons proposé la création de deux tarifs au lieu de 23, un tarif dit social pour les familles qui sont en difficulté et qui ont une vraie difficulté de pouvoir d'achat, et un tarif dit populaire pour toutes les autres familles à 1 euro, qui permet aussi aux familles qui travaillent de pouvoir mettre leurs enfants à la cantine à des tarifs modestes. On a toujours tendance à penser aux classes sociales qui sont dans de grandes difficultés, mais qui sont déjà très aidées par ailleurs avec d'autres dispositifs. Et on pense très rarement aux classes populaires ou aux classes ouvrières qui, eux, travaillent, qui, généralement, les deux parents sont au boulot et donc ne reçoivent aucune aide pour rien. Et donc, cette proposition visait aussi à les aider en disant, bah voilà, en créant ces deux tarifs, on rend aussi du pouvoir d'achat aux Dunkerquois qui travaillent.
Pourquoi cette mesure a été aussi importante pour vous?
Une mesure de pouvoir d'achat, une mesure d'égalité, pour que tout le monde puisse être égaux devant le tarif de la restauration. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a 23 quotients familiaux. On va de 0,60 centimes le repas pour les catégories les plus pauvres, et on va, pour les catégories les plus riches, à 6,50 € le repas. Donc, un enfant qui mange la même chose à la cantine, finalement, se retrouve, il y a des parents qui payent 60 centimes, il y a des parents qui payent 6 euros. Donc, encore une fois, voilà, les parents qui payent 6 euros ne sont jamais aidés, vivent aussi les difficultés du quotidien, la baisse du pouvoir d'achat, et donc c'était une mesure que nous avons proposée pour permettre à tout le monde d'avoir une égalité, donc un tarif dit social et un tarif populaire à 1 euro.
Et vous avez récemment réagi aux annonces d'économies qui ont été faites par la communauté urbaine, je crois, de Dunkerque. Quelle est aujourd'hui votre analyse de la situation financière de la collectivité? Parce que vous avez dit que ça allait plutôt dans la bonne direction.
Aujourd'hui, ça va dans la bonne direction, mais il était temps. En 10 ans de gouvernance macroniste du maire de Dunkerque, en même temps président de la communauté urbaine, on est passé de 250 millions d'euros à 650 millions d'euros de dette. C'est-à-dire que la dette a explosé en 10 ans de gouvernance du maire de Dunkerque, président de la CUD. Et donc, à un moment donné, il fallait réagir. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la communauté urbaine de Dunkerque a dépassé les 12 années. On est à 12,4 années. C'est-à-dire que on est en alerte rouge. La communauté urbaine de Dunkerque est très mal gérée, dépense énormément d'argent. Et donc, à un moment donné, il fallait mettre les hauts là. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit lors de l'élection municipale, en disant que nous ne pouvions plus continuer sur ce chemin-là et qu'il fallait à un moment donné faire des économies. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on tire un avis positif des annonces qui ont été récemment faites, notamment la suppression et l'arrêt de projets pharaoniques tels que la grande salle à plus de 100 millions d'euros, la réduction des dépenses en termes de communication de la communauté urbaine de Dunkerque, la réduction de l'utilisation des moyens de la collectivité tels que les voitures de fonction. Donc voilà, des mesures peut-être symboliques, mais qui quand même coûtent de l'argent et donc permettent aussi de faire des économies. À l'élection municipale, nous avons fait 110 propositions. 110 propositions avec une grande partie de ces propositions qui étaient aussi des pistes d'économie. Mon adversaire, maire sortant et président de la communauté urbaine de Dunkerque, a fait lui 89 propositions. 89 propositions, et ces 89 propositions, c'était des nouvelles dépenses. Donc il a promis aux Dunkerquois de continuer le train de vie pharaonique, sauf qu'évidemment, la réalité l'a rattrapé. Et aujourd'hui, il revient sur un certain nombre de ses promesses, et les Dunkerquois se retrouvent aujourd'hui bernés, puisqu'ils ont cru en un projet qui finalement ne se réalisera pas.
Vous évoquez quand même les capacités de désendettement de la communauté urbaine de Dunkerque, et pourquoi ces indicateurs, ces propositions, elles sont importantes pour vous? Est-ce que les collectivités, elles doivent aujourd'hui apprendre à faire mieux avec moins, et vous expliquez quand même qu'il y a des capacités de désendettement?
C'est une évidence. L'ensemble des collectivités sur le territoire national doivent faire mieux avec moins. L'argent ne tombe pas du ciel. L'État est ultra endetté. Je crois que 3,7 milliards d'euros de dettes. Les collectivités sont ultra endettées. Et il y a un moment donné, encore une fois, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, on ne peut pas tout promettre. Les collectivités n'ont pas vocation à tout gérer, à s'occuper de tout, à grossir éternellement. Il y a un moment donné, il faut se recentrer sur un certain nombre de prérogatives, des compétences de ces collectivités, et ça nécessite de faire des choix. Alors évidemment, nous, notre projet n'a pas forcément ne vendait pas du rêve, peut-être aux électeurs, mais il était cohérent, il était raisonnable, il était sincère. Et donc, forcément, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'électeurs sont plutôt attirés par des belles promesses plutôt que par du sérieux. Mais alors, on en prend acte maintenant à nous aussi, au sein du conseil municipal, de mettre en avant ces mensonges, ces renoncements de la majorité. Ce que nous ferons, voilà, puisque notre rôle aussi, c'est d'être le porte-voix et d'être les porte-paroles, les défenseurs d'un projet et puis les éveilleurs des consciences.
Et donc, parmi vos propositions, vous évoquez notamment une réduction du nombre de vice-présidents, si je ne me trompe pas, une baisse des indemnités des élus ou encore un audit externe. Pourquoi ces propositions, elles vous semblent importantes et est-ce qu'elles
Parce
auront
qu'il
un réel impact?
faut que les élus montrent l'exemple. Alors évidemment, ça n'aura pas un impact énorme, mais c'est symbolique. Je prends par exemple dans la commune associée de Saint-Paul-sur-Mer, la première décision des élus, ça a été d'augmenter leurs indemnités. Au moment où les collectivités sont dans le rouge, au moment où nos concitoyens perdent du pouvoir d'achat, évidemment que d'augmenter ces indemnités, c'est pas forcément un bon signal. Et partout dans toutes les collectivités de France, à partir du moment où les élus augmentent leurs indemnités, c'est pas forcément le meilleur signal qu'on puisse envoyer à nos concitoyens. Donc c'est d'abord une mesure symbolique. Mais en même temps, je veux dire, par exemple, à la communauté urbaine de Dunkerque, vous avez 61 élus, vous avez 19 vice-présidents. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est nécessaire? À côté de ça, vous avez aussi tout un tas de conseillers communautaires délégués qui touchent aussi des indemnités. Généralement, ces gens cumulent leurs fonctions avec un poste d'adjoint dans une mairie ou un poste de maire. Et donc, vous avez par exemple le maire délégué de la commune de Saint-Paul-sur-Mer qui est passé de 2 500 euros d'indemnité en 2025 à 4 800 euros d'indemnité en 2026. Pourquoi? Parce qu'il cumule aujourd'hui plusieurs fonctions et parce qu'il a augmenté son indemnité de maire. Donc, évidemment, je ne suis pas certain que nos concitoyens, que les Français, que les Dunkerquois puissent se targuer d'une telle augmentation de leur pouvoir d'achat en un an. Et donc, voilà, c'est une mesure symbolique. On peut cumuler, mais il y a un moment donné, il faut aussi être raisonnable et montrer qu'on fait des efforts.
Et du coup, selon vous, disons la priorité budgétaire, quelle est, enfin, si je puis dire, la plus urgente, celle qui aura le plus d'impact?
C'est déjà de recentrer la collectivité sur ses prérogatives. Je vous l'ai dit, les collectivités doivent d'abord s'occuper de leurs compétences. Ils n'ont pas vocation à tout gérer. Typiquement la santé. La santé aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui s'occupent de cette compétence parce qu'il y a une défaillance de l'État. La sécurité, c'est pareil. Aujourd'hui, énormément de collectivités investissent dans des policiers municipaux parce que l'État est défaillant en matière de sécurité. Et pourtant, c'est des prérogatives de l'État. Et donc, il faut aussi que les élus locaux aient un discours de vérité. Vous avez le maire de Dunkerque qui a été ministre d'Emmanuel Macron. Il a participé au gouvernement d'Emmanuel Macron et il a été voilà, dans, il a participé à cette cabale budgétaire. Et aujourd'hui, il se plaint des décisions prises par Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a un moment donné, quand vous êtes au pouvoir, il faut aussi dire à l'ensemble des couches de l'État et des différentes collectivités que chacun s'occupe de ses prérogatives et évite d'investir et de dépenser dans tous les domaines, dans tous les champs de compétences. Donc il y a évidemment une première décision qui est de se recentrer sur les compétences des différentes collectivités. Et je le vois aussi dans le cadre de mon rôle de conseiller régional. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont réalisées au conseil régional pour des dossiers qui ne sont pas de la compétence du conseil régional. Et à un moment donné, ça suffit. On ne peut pas dépenser dans tout, n'importe comment et à tout va.
Vous avez également critiqué certains grands projets, notamment le projet Boréal. Qu'est-ce qui posait problème dans ce projet?
Le projet Boréal, c'est la grande salle de sport à plus de 100 millions d'euros qui était dans le projet municipal de mon concurrent, du maire sortant. Évidemment, quand vous avez déjà 650 millions d'euros de dettes, faire une proposition d'une nouvelle dépense de 100 millions d'euros, ça pose problème. Et financièrement, c'est pas réalisable. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Il existe un certain nombre d'équipements sur Dunkerque pour l'ensemble des clubs sportifs professionnels et amateurs qui sont plutôt de bonne qualité. Je pense que c'est ces équipements doivent être entretenus, doivent peut-être être développés. Je pense à la patinoire qui est toute récente, qui a 10 ans. On a l'objectif de ce Boréal, c'était d'accueillir pour les matchs le club de hockey dunkerquois. Évidemment, vous avez investi dans une patinoire. C'est pas pour que 10 ans après on vous dise, le club de hockey va changer de domiciliation et va aller jouer dans une grande salle à 100 millions d'euros. Il faut être raisonnable. Vous avez entamé des dépenses publiques, vous avez fait un certain nombre d'équipements. Il faut que ces équipements puissent être rentabilisés. C'est si tous les 10 ans vous faites des nouveaux investissements à plusieurs millions d'euros pour que des clubs sportifs changent ou puissent grandir, ça pose problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre gouvernance, vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas eu une vision à long terme, ce que aurait dû avoir le maire de Dunkerque au moment où il a lancé ses équipements. Pareil, on a financé un nouveau stade de foot. Il a promis une nouvelle tribune pour l'agrandissement de ce stade de foot, qui, à mon avis, ne verra pas le jour, parce que voilà, tout ça, c'est encore une fois des millions d'euros d'argent public. Pareil pour le club de hand qui était censé aussi aller dans ce Boréal. Donc on a fait espérer à ces différents clubs sportifs, aux équipes dirigeantes, mais également aux licenciés, qu'il y allait avoir des nouveaux équipements pour les accueillir, au détriment de ceux qui existent déjà. Et ça ne sera pas le cas. Donc il y a un moment donné, quand vous avez une collectivité qui est ultra endettée, faire des promesses de nouvelles dépenses de plusieurs millions d'euros, c'est pas possible. Il faut être sérieux, il faut être raisonnable et il faut pas mentir aux citoyens, il faut pas mentir aux Dunkerquois.
Mais sur ces grandes dépenses à justement à plusieurs millions d'euros, comment enfin vous pouvez faire pour comment la collectivité peut faire pour trouver le bon équilibre justement entre préparer l'avenir du territoire et justement préserver les finances de la collectivité, les dépenses qui paraissent enfin qui seraient non nécessaires justement.
Il faut arrêter. Il faut arrêter de ces promesses et il faut arrêter de financer ces équipements. On n'a plus les moyens. 650 millions d'euros de dette au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, on n'a plus les moyens. Donc, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Dans notre projet municipal, nous avions annoncé que, si nous avions été élus, nous arrêtions ce projet de grande salle. C'est plus possible. On n'a pas, l'argent tombe pas du ciel. Il y a un moment donné, il n'y a pas des machines à fabriquer des billets dans les sous-sols de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, il faut faire des choix. Et le choix le plus raisonnable aujourd'hui, en fonction de l'état des dépenses de la communauté urbaine de Dunkerque, c'est d'arrêter ces grands projets pharaoniques. D'autant plus qu'il y a déjà des choix qui ont été faits par le président de la communauté urbaine, notamment avec le bus gratuit. Tout le monde a entendu parler de la mise en place du bus gratuit sur Dunkerque. Sauf que le bus gratuit sur Dunkerque, ça coûte 20 millions d'euros par an à la collectivité. C'est-à-dire que le budget transport de la communauté urbaine de Dunkerque est en déficit de 20 millions d'euros par an. Donc, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Alors, vous faites le choix de financer le bus gratuit, de permettre aux gens de prendre le bus sans payer. Derrière, c'est un coût, 20 millions par an. Il y a également sur le Dunkerquois un certain nombre de nouvelles industries qui approchent, qui sont en train de se développer, qui investissent pour s'implanter sur le territoire. La communauté urbaine, dans son rôle d'aménageur du territoire, investit dans les infrastructures, mais forcément, tout ça, c'est énormément d'argent. Et dans le même temps, on accorde des subventions à ces grandes entreprises pour qu'elles viennent s'installer. Et là, je prends mes deux casquettes de conseiller communautaire et de conseiller régional. Par exemple, le conseil régional donne une subvention à la Gigafactory Vercors de 60 millions d'euros. C'est-à-dire qu'une subvention, on leur donne de l'argent. Cet argent, on ne le récupérera jamais. Pareil, la communauté urbaine de Dunkerque donne de l'argent pour l'implantation de ces nouvelles entreprises, de l'argent en subvention qu'on ne récupérera jamais. Eh bien, il y a un moment donné, il y a un autre dispositif qui s'appelle les avances remboursables, et il faut que les collectivités se dirigent vers ces avances remboursables. L'avance remboursable, c'est quoi? C'est je vous donne le même montant, sauf que la personne qui a reçu cette somme, l'entreprise qui a reçu cette somme, s'engage à rembourser annuellement une partie de cette somme. Donc, ça permet à la collectivité, finalement, de donner un coup de pouce aux entreprises qui s'installent sur le territoire, mais en même temps de récupérer cette somme au fur et à mesure des années. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on a donné, c'est de l'argent qu'on a prêté et qu'on récupérera au fur et à mesure du temps. Et donc ça, voilà, c'est des choix concrets qu'il faut faire.
Oui, donc un système un peu d'emprunt mais sans intérêt, disons.
Oui, exactement.
Et alors, mais du coup, pour revenir sur ces grands investissements qui coûtent finalement en fait des milliers, voire des centaines de milliers d'euros, quand même à la commune, comment préparer justement en fait l'avenir du territoire, améliorer, proposer aux personnes, enfin aux habitants, des solutions, des nouvelles choses de hors commune, tout en coupant ces grands investissements. En fait, quelles seraient les alternatives qui seraient moins coûteuses et qui permettraient de préparer l'avenir du territoire, justement?
Alors, l'investissement, l'arrivée de ces nouvelles entreprises, justement, les élus locaux aujourd'hui espèrent des retombées fiscales de l'implantation de ces nouvelles entreprises. Donc, forcément, nouvelles entreprises dit rentrée d'argent et les élus aujourd'hui espèrent une manne financière de l'implantation de ces nouvelles entreprises. Et donc, ça, c'est de l'investissement, enfin, c'est de l'argent du privé. Et je pense qu'effectivement, bah, il faut réduire le train de vie des collectivités, qui est de l'argent public. Et il faut s'orienter aujourd'hui sur des projets financés par le privé, s'ils veulent bien. Dans notre projet municipal, nous avions proposé la création d'un parc à thème à l'image du Puy du Fou, puisque le Dunkerquois est une terre de tradition, est une terre d'histoire. Et l'objectif, c'était de créer un parc à thème privé, avec des financements privés, qui là aussi auraient permis d'avoir des recettes supplémentaires. Et donc, je pense qu'il faut que les collectivités puissent diversifier leurs ressources et financer, cofinancer un certain nombre de projets avec, avec du privé. C'est typiquement ce que sont en train de faire les clubs sportifs professionnels. Ils ne peuvent plus dépendre exclusivement d'argent public et donc ils cherchent de plus en plus des sponsors, de l'argent privé, parce qu'évidemment, bah, l'argent public ne tombe pas du ciel, encore une fois. Et donc, pour diversifier, pour permettre une pérennité de leur budget, ils vont chercher d'autres financements qui sont des financements privés. Mais je pense que sur le Dunkerquois et partout en France, il faut absolument qu'on puisse réaliser des projets cofinancés avec le privé. C'était l'objet de ce parc à thème qui permettrait de développer le Dunkerquois à travers son histoire, ses traditions, de développement finalement avec de l'argent privé et au final des recettes fiscales supplémentaires.
C'est un projet qui a été complètement évincé ou bien s'il y a encore des chances que ça puisse aboutir?
Non, complètement évincé. Voilà, on n'a malheureusement pas gagné les élections, donc on n'a pas la main sur la mise en place de ce projet. Évidemment, nous aurons l'occasion, à travers un vœu ou une motion au Conseil communautaire, de refaire cette proposition. Mais encore une fois, là, par exemple, au Conseil communautaire, on est 3 élus sur 61. Vous vous doutez bien que notre proposition a quand même aucune chance d'aboutir. Donc, évidemment, c'était dans notre projet. Nous allons reproposer ce parc à thème. Je ne me fais pas d'illusions sur l'avenir de cette proposition. Malgré tout, je pense que ça reste une très bonne proposition. Et si demain, les élus de la majorité s'emparent de cette proposition, eh bien, tant mieux, on aura réussi notre rôle. Mais d'ailleurs, comme toutes les propositions que nous faisons au conseil municipal et à la communauté urbaine de Dunkerque, à partir du moment où une de nos propositions est reprise, même si elle n'est pas votée premièrement par les élus, mais qu'elle est reprise ensuite par la majorité, mais c'est déjà une victoire. C'est-à-dire que nos idées, nos propositions finalement font leur chemin et nous avons en partie réussi.
Et lorsque, alors plus terre à terre, quand vous allez à la rencontre des Dunkerquois, quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations que vous entendez, que les habitants vous confient?
Pouvoir d'achat, sécurité, c'est vraiment les deux principales priorités des habitants et particulièrement du Dunkerquois, puisque Dunkerque, faut pas l'oublier, est très impacté par l'immigration massive et clandestine, mais également par la montée en puissance du trafic de drogue. Dunkerque est un port, donc forcément c'est une porte d'entrée sur le trafic de drogue. De plus en plus d'habitants nous disent « mais moi j'ai du trafic de drogue dans mon garage, en bas de ma barre d'immeuble ». Et donc tout ça, évidemment, il faut l'anticiper, il faut le prévoir, puisque si on laisse faire, ça va se développer. Et donc il y a une vraie demande de sécurité, de présence policière. Et donc là aussi, il faut rappeler que l'État doit jouer son rôle et doit assurer la sécurité de ses concitoyens, même si effectivement les collectivités peuvent venir en appui des différents dispositifs qui sont pris par l'État. Ça, c'est les principales demandes que nous sont remontées par nos concitoyens. Et puis après, derrière, je suis un élu de terrain et je vais beaucoup à la rencontre des habitants, mais également des commerçants. Et je suis allé dernièrement à la rencontre de l'ensemble des commerçants de la place de la République à Dunkerque Centre, qui rencontrent une vraie difficulté en termes d'affluence, notamment parce que le stationnement est de plus en plus réduit, parce qu'il y a un manque d'animation autour de leur commerce. Et donc, du coup, on se fait les porte-parole de ces commerçants. Nous sommes à leur rencontre, nous récoltons leurs doléances et derrière, nous écrivons à la majorité, nous interpellons la majorité lors des conseils municipaux pour leur faire remonter ces informations. Pareil pour les commerçants de la place de la Liberté à Saint-Paul-sur-Mer, la place qui est devant leur commerce a été totalement refaite. On a supprimé le stationnement et aujourd'hui, bah voilà, ils se disent, mais nous, on perd du pouvoir d'achat parce que notre clientèle, finalement, s'en va. Elle va voir ailleurs, là où elle peut se stationner. Et donc, il y a une perte de chiffre d'affaires. Et donc, c'est aussi notre rôle, l'élu d'opposition, de faire remonter ces difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens, mais également le monde économique de notre territoire.
Et donc, après ces premiers mois depuis les élections municipales, quel est votre objectif pour les années qui viennent? Qu'aimeriez-vous avoir vraiment réussi à faire d'ici la prochaine échéance municipale?
Réussir à faire passer nos idées petit à petit. Alors, ce que je vous disais, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la majorité. Donc, il y a une proposition qui me tenait à cœur et que j'ai défendue lors de ces élections municipales, c'était la mise en place des licences gratuites pour les jeunes. Alors, gratuite, évidemment, rien n'est gratuit, mais c'était d'offrir les licences sportives pour les catégories jeunes. Donc, un parent qui met son enfant dans un club de sport de sport de la commune remboursait la licence à ce parent. C'était un peu le principe du passe-sport où on aidait les familles pour mettre les enfants dans les clubs sportifs. Voilà, ça, tout ça, bah forcément, c'est un coût. Mais en même temps, voilà, derrière, il y a des pistes d'économie qu'on aurait réalisées pour financer cette mesure. Et ça a plusieurs avantages. L'avantage, c'est qu'on met des enfants dans les clubs de sport. Plutôt que d'être dans la rue ou devant les écrans, ben, ils font du sport, ils pratiquent du sport. Aujourd'hui, on est confronté aussi à une obésité des enfants de plus en plus importante. Donc, la pratique du sport, c'est bon pour la santé. Et puis, derrière, ben, ça permet aussi d'investir les parents dans un club de sport. Les bénévoles, ça ne court pas les rues, c'est de plus en plus dur à trouver. Et donc, cette mesure avait ces trois avantages: mettre les enfants au sport, lutter contre l'obésité infantile et faire venir des bénévoles dans les clubs sportifs. Donc, si on arrive à faire appliquer cette mesure d'ici à la fin du mandat, ça serait une belle victoire.
C'est un très beau point à la fin. Merci beaucoup, Adrien Nave, d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Ligne Droite. Merci. Et puis bonne continuation dans votre engagement au service des Dunkerquois. Merci beaucoup. Et puis, il est 8h27 et juste avant de passer à notre entretien avec Guillaume Boutard. Et pour continuer à faire d'autres entretiens, il faut donner à Radio Courtoisie.
Et si vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. C'est très important, en particulier dans cette période estivale où les dons se font plutôt rares, on va dire.
Exactement, merci beaucoup Arnaud.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite.
Bonjour Guillaume Boutard, merci d'être avec nous sur Ligne droite.
Merci pour l'invitation.
Alors, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Fleury-les-Aubrais et conseiller métropolitain d'Orléans. Vous avez donc récemment été au cœur de l'actualité après avoir été menacé de mort alors que vous tractiez sur un marché. Donc nous allons revenir avec vous dans un instant sur ça et sur la réalité du mandat d'élu local aujourd'hui. Mais aussi juste après sur les enjeux politiques à venir dans votre territoire alors qu'Orléans accueillera prochainement le congrès du Rassemblement National, un grand rendez-vous de lancement de la campagne présidentielle. Alors le 14 juin dernier, si je ne me trompe pas, alors que vous tractiez sur un marché, un homme vous a menacé de vous égorger. Pouvez-vous revenir précisément sur ce qui s'est passé ce jour-là?
Alors en fait, ce jour-là, on était en train de tracter comme tous les dimanches avec les militants. J'étais là dans le cadre de mon mandat municipal. Et un homme est venu qu'on avait déjà rencontré lors des marchés durant la campagne et qui nous avait déjà traité de fascistes, de racistes, et est venu en m'invectivant, en me disant « si c'était l'Aïd, vous auriez été comme les moutons, vous auriez égorgé ». À la suite de cela, évidemment, c'est sûr que c'est des propos qui réveillent des souvenirs quand même, comme tout Français qu'on a pu vivre, notamment avec Samuel Paty, mais aussi quand on voit effectivement les martyrs chrétiens dans certains pays qui se font égorger, ça rappelle quand même tous ces souvenirs-là. Et donc c'est vrai que c'est assez brutal, et à la suite de ça, j'ai pris mes dispositions, évidemment. Je suis allé porter plainte, la police a fait son travail, et ce monsieur est passé en comparution immédiate au tribunal. Donc si vous voulez, en comparution immédiate, vous avez deux issues. La première issue, en fait, c'est le renvoi du procès, parce que la personne choisit en fait de préparer sa défense, et le second, c'est évidemment qu'il soit jugé immédiatement. Cette personne est une personne multirécidiviste, bien connue, qui était déjà sous contrôle judiciaire, et qui, beaucoup de cas se répètent en France, a récidivé, notamment par rapport à des menaces de mort, parce qu'il avait déjà, il en a déjà évoqué en 2019. Mmh. Et donc le procès est renvoyé au 20 août prochain.
Et alors à quel moment vous avez senti que la situation elle dépassait le simple désaccord politique ?
Évidemment, je veux dire sur le point évidemment de la décapitation, parce qu'on peut on peut débattre, mais si vous voulez, ces personnes-là qui sur le marché viennent nous interpeller pour avec ce genre de menace de décapitation, on a franchi un palier. Mmh. Et en fait, moi j'en veux particulièrement aux personnes, je veux dire notamment aux politiques qui, si vous voulez, qui tous les jours en fait mettent des cibles dans le dos d'élus, de militants du camp national, et qui finalement en fait ces cibles-là amènent à ce genre de situation. Et quand on voit, si vous voulez, on a effectivement la France insoumise, ces marchands de fables qui nous, vous voyez, avec Martine Aubry, avec son chauffeur, et qui d'un autre côté vient nous vanter le SMIC à 1500 euros, la répartition des richesses, Mathilde Panot qui a été vue en première classe pour aller au Liban, et d'un autre côté vous avez des gens qui effectivement sont assez violents, je veux dire dans leurs propos, notamment en évoquant une insurrection populaire, comme Monsieur Bali Bagayoko, et donc ces personnes-là conduisent pour certaines à ce genre d'événement, et ils ont oublié, et comme ce monsieur-là ils ont oublié, comme ce monsieur-là sur le marché, qu'effectivement en France, les armes ont été remplacées par les urnes depuis quand même un certain nombre d'années.
Mais bien sûr, mais au-delà, par exemple, au-delà de la violence des propos, moi ce que je trouve assez interpellant aussi, c'est en fait le contexte que vous étiez en train de tracter dans le cadre de l'exercice de votre mandat d'élu. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être visé en tant que personne ou en tant que représentant politique, en tant qu'élu ?
Alors moi, en tant que personne, avec toute modestie, c'est vrai que je suis pas forcément, je suis un nouvel arrivant dans la politique de la métropole orléanaise. Donc en tant que personne, j'en doute, en tout cas en tant que évidemment élu, et maintenant en tant que personne, vu que mon mandat se rattache à ma propre personne. Si vous voulez, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on parle beaucoup et on dénonce beaucoup la différence qui est faite entre les élus et les citoyens. Et lorsque je me suis rendu au commissariat, le policier me demande si je suis sûr que cette insulte intervient dans le cadre de mes fonctions. Parce que si vous voulez, pour porter plainte pour menace de mort, en fait, un citoyen lambda, en fait, sans mandat, peut porter plainte pour menace de mort si la menace de mort est réitérée. Là, en l'occurrence, elle n'était pas réitérée. J'étais dans le cadre de mon mandat d'élu, et en fait, du fait que je sois dans le cadre de mon mandat d'élu, la différence qui est faite avec un citoyen de situation lambda, eh bien, je peux porter plainte pour menace de mort. Ce qui est assez lunaire.
Oui, complètement. Mais pour vous, est-ce que cette distinction, elle est importante justement du fait que c'est pas vous qu'on a décidé de menacer, en fait, c'est ce que vous représentez. Est-ce que cette distinction, elle est importante pour vous ?
Elle est importante, oui, si vous voulez, parce qu'on représente aussi quand même l'État, évidemment, de par nos fonctions. On prend des risques en termes de visibilité vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de nos opposants, etc. Par contre, moi, je pense à tous les habitants qui font face à toute cette impunité, à toute cette insécurité, et qui finalement ne sont pas pris au sérieux. Leurs plaintes durent des années. Là, c'est sûr qu'effectivement, le parquet a travaillé, a fait en sorte à ce que cette affaire soit traitée assez rapidement, parce que c'est le premier cas de menace de décapitation dans le Loiret, et plus globalement, je crois, dans la région Centre-Val de Loire. Et donc, ils ont fait en sorte à ce que ce soit traité rapidement. Par contre, à contrario, vous avez des affaires qui durent des années pour des agressions, pour évidemment des viols, pour tout ce genre de cas. Donc c'est ça qui est déplorable. C'est effectivement, je suis très content que ça ait été traité rapidement, parce que ça permet de s'en débarrasser, ça permet de derrière travailler et de ne plus s'en occuper. Mais finalement, on voit un peu cette justice à deux niveaux.
Oui, d'autant que vous avez expliqué qu'il était multirécidiviste. Oui. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des tensions plus ou moins similaires auparavant ?
Alors les tensions, si vous voulez, on sait que ça nous arrivera du fait qu'on porte un discours qui est de plus en plus plébiscité par les Français, mais on a toujours des opposants face à nous, des opposants virulents, notamment l'extrême gauche qui vis-à-vis de nous et vis-à-vis de tout ce qui peut représenter en fait l'État, notamment les policiers, les policiers, comme on l'a vu lors du déplacement de Marine Le Pen à La Flèche, où des militants d'extrême gauche insultaient et même ont craché sur des gendarmes. Si vous voulez, on sait qu'on aura affaire à ces gens-là. Par contre, c'est vrai que quand on dépasse, quand on franchit ce genre de menaces avec des menaces de décapitation, on n'est même plus dans le débat. Mmh. On a une personne qui potentiellement, comme je vous le rappelais, nous avait déjà invectivé en nous traitant de racistes, de fascistes en campagne. Là, on atteint un deuxième niveau en me menaçant de décapitation. Et demain, qu'est-ce qui va se passer, en fait, si vous voulez. Mmh. Et c'est ça le plus inquiétant, parce qu'on ne sait pas, évidemment, ce qu'a la personne dans ses poches, comment ça peut se passer. Et c'est plus dans ce cas-là où c'est effectivement inquiétant. Mais on a l'habitude de faire face, et c'est vrai qu'on a des militants quand même qui sont courageux pour aller coller en pleine journée, pour aller coller en soirée, pour distribuer, pour être présent sur tous les marchés à Fleury-Aubray, on les assure depuis plus d'un an, de façon assez constante, même après les élections, du fait qu'on soit, aussi élu, et ils sont prêts, ils font face à ça avec un courage quand même qui est notable.
Oui, c'est vrai que c'est courageux, mais c'est vrai que c'est quand même, un peu inquiétant de se dire qu'aujourd'hui, on a conscience que ça peut nous arriver, que juste aller tracter, en fait, ça devient un lieu quand même de danger. Vous avez expliqué attendre quand même de la justice une réponse qui était ferme. Et qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui de la réponse judiciaire ?
Alors moi, j'attends évidemment que, en fait, cette personne dorme en prison, parce que, si vous voulez, c'est une personne qui... comme je vous le rappelais, multi-récidiviste sur des faits violents, sur des faits de stupéfiants, sur des menaces de mort. Et donc, cette personne n'a plus sa place, en fait, sur la voie publique. Cette personne, on a pu la croiser partout dans notre commune. Et c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Et moi, j'ai eu des remerciements de la part de commerçants, notamment les commerçants de proximité, qui me disaient qu'en fait, cette personne-là, ils l'avaient tous les jours sur le dos. Et donc, au bout d'un moment, ils étaient contents que, effectivement, la justice puisse faire son travail et que nous, on porte cette affaire jusqu'au bout. Finalement, ça a quand même effectivement un coût parce qu'il y a l'avocat, il y a aussi derrière des frais administratifs, etc. Et donc, on fera le maximum. En tout cas, moi, à titre personnel, je ferai le maximum pour que ce soit traité. Et si vous voulez, c'est pour ça que. J'invite et on travaille sur ça que en tant qu'élu, si vous voulez, vous avez la capacité notamment de faire des articles 40, des signalements au procureur. Et j'invite effectivement toutes les personnes et notamment les citoyens qui font face à ça de venir vers nous pour nous faire part de tous ces faits délictuels, de toutes ces menaces, etc., pour que ce soit traité et de ne plus rien laisser passer parce que en fait, c'est en laissant passer, en se disant qu'on ne va pas porter plainte, que finalement le fait se répète.
Et vous pensez que la réponse tira plutôt dans votre sens ou pas, vu que il est déjà multirécidiviste, visiblement du coup il embêtait quand même les citoyens, j'ai envie de dire au quotidien. Est-ce que vous attendez vraiment à ce que la réponse soit ferme ou c'est plus un espoir que vous avez
J'ai un espoir et si vous voulez, en être convaincu avant la fin du procès, ce serait être assez à côté de la plaque, mais en tout cas je l'espère sincèrement. Au vu du traitement de l'affaire, elle a été traitée très rapidement. Et si vous voulez, en fait, par rapport au renvoi, il y a encore deux issues. C'est que la première issue soit de nouveau mise sous contrôle judiciaire, avec des zones où, en fait, il ne doit pas se rendre, et de devoir aussi pointer au commissariat, ou d'aller dormir en prison. Là, il est allé dormir en prison. Mais si vous voulez, le débat, en fait, de se poser la question, est-ce qu'il va être de nouveau sous contrôle judiciaire ou en prison, c'est de nouveau posé. Alors que cette personne-là était déjà sous contrôle judiciaire, donc c'est assez lunaire.
Oui, c'est vrai que c'est quand même particulier. Et donc, après cet épisode, est-ce que vous avez changé votre manière d'exercer votre mandat, votre présence sur le terrain, ou est-ce que ça crée une forme d'autocensure, ou au contraire, ça renforce la position ?
À titre personnel, ça renforce la position, parce que faire face à ces gens-là, c'est se dire que alors effectivement sur des menaces extrêmes comme celle-ci, mais aussi sur des menaces lambda, sur des invectives lambda, etc. Ça renforce parce qu'on sait que ce qu'on fait et ce qu'on porte, En tout cas, le réel nous donne raison, sincèrement, parce que des faits d'insécurité, l'économie, etc., qui s'affaissent en France, on sait que tous ces faits-là, en fait, donnent raison, effectivement, au constat qu'on porte. Et derrière, moi, j'ai vu que suite à ces faits-là, j'ai eu la réaction de quelques maires, notamment de communes environnantes, notamment de grosses communes, qui ont réagi face à cela et qui, publiquement ou aussi, je veux dire, au téléphone plus personnel, m'ont adressé leur soutien et m'ont effectivement évoqué que derrière cette affaire-là, ils feraient eux aussi un travail sur leur commune, alors que ce ne sont pas des représentants du Rassemblement National, mais en tout cas, on a, si vous voulez, ce cordon sanitaire qui, effectivement, était présent il y a quelques temps, se détruit et laisse place, effectivement, à un petit peu plus de raison au niveau local, hein, pas au niveau national.
Bien sûr. Et est-ce que vous avez maintenant, enfin vous, par exemple, une sorte, j'ai envie de dire, d'appréhension d'aller à la rencontre maintenant des habitants, en se disant, justement, qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, vous évoquiez, par exemple, Samuel Paty, de se dire, est-ce que ça ira à ce stade-là la prochaine fois? Est-ce que vous avez, ouais, ça, est-ce que vous avez une forme d'appréhension maintenant quand vous allez à la rencontre des
Une appréhension, après, on se pose toujours la question du danger, effectivement, d'un certain diagnostic vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous, et de sa dangerosité, et aussi de sa virulence. Par contre, je pense que ce serait dommage, et ces personnes-là cherchent à nous faire peur. Que ce soit l'extrême gauche, des islamistes, ou ce genre de personnes cherchent à nous faire peur et qu'on abandonne ce combat. Je pense que abandonner ce combat, c'est leur donner raison. Il faut avoir beaucoup plus de robustesse face à ces gens-là, traiter le problème de part, en fait, la question judiciaire aussi, en passant par différents moyens. Mais en tout cas, on continue à aller à leur rencontre. Moi, je vous cite un exemple, c'est que il y a une semaine, on a eu les faits de canicule. Je suis avec certains militants, je suis allé à la rencontre des habitants, notamment dans des zones avec davantage de HLM. Où, en fait, ces personnes-là ont 40-45 degrés dans leur logement. On est allé effectivement discuter avec eux, on est allé constater ça, et on est allé encore pousser nos mesures qu'on avait poussées lors des élections municipales sur ces faits-là, mais on continue d'être à leur rencontre, parce que ça n'est que le début du mandat.
Oui, bah oui, bien sûr, c'est vrai qu'il reste encore...
Commencer, oui.
ce n'est que le début. Pour élargir plus globalement votre rôle maintenant de conseiller métropolitain, vous êtes donc également conseiller métropolitain d'Orléans, et le Rassemblement National organisera du coup son congrès à Orléans en octobre prochain, oui, si je ne me trompe pas, avec donc un grand meeting qui est annoncé un peu comme étant le lancement de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que ça représente pour les militants et les élus locaux?
Alors, si vous voulez, c'est le premier événement XXL qui se passe dans le Loiret, et plus précisément à Orléans. On a vécu quand même quelques succès sur le Loiret. Donc déjà, on a un député, Thomas Ménager, du côté de Montargis. On a réussi à prendre la mairie de Montargis, d'Amilly. On a des conseillers municipaux, notamment 3 à Fleury-Aubray, 3 sur une autre, commune. On a 2 conseillers métropolitains sur la métropole d'Orléans. Et donc, en fait, on voit que la terre loiretaine est une terre assez fertile pour le Rassemblement National. Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi remercier et prouver qu'en fait, le Rassemblement National est présent en faisant ce genre d'événement. C'est un événement qui débutera par l'élection du président du Rassemblement National, le renouvellement du Conseil National du parti, une soirée aussi plus festive, et à la suite de ça, un grand meeting de lancement des présidentielles. Et donc c'est assez inédit, et face à cela encore, vous avez l'extrême gauche qui manifeste et qui tente de bloquer cet événement. Mais écoutez, nous, on s'attache à effectivement faire vivre la démocratie pendant qu'eux restent sur leur trottoir.
Et bien sûr, je pense qu'on va pouvoir rapidement en reparler, mais donc, selon vous, c'est la plantation du Rassemblement National dans le Loiret qui fait que ça se passe à Orléans. Enfin, pourquoi ce lieu, pourquoi Orléans, pourquoi symbolique, et est-ce que pour vous c'est un choix qui est stratégique de faire ce grand meeting justement à Orléans?
C'est un choix qui est stratégique, oui, parce que effectivement c'est une zone où on a davantage d'élus. Moi, je vois sur ma circonscription où je travaille avec mon ami Jeanlin Lacapelle, qui a fait 49,3%, donc un chiffre qui est assez symbolique, qui a malheureusement perdu à 700 voix, mais qui, pour les prochaines élections, on travaillera, et je suis persuadé qu'on remportera un nouveau siège des députés à l'Assemblée nationale et qu'effectivement, on remplacera le macroniste présent à l'Assemblée nationale de temps en temps et absent en circonscription pour que véritablement les habitants puissent avoir un bâton de parole et qu'on puisse effectivement les écouter sincèrement. Donc oui, on a effectivement on a de grosses capacités dans le Loiret à pouvoir se développer et ça, les dernières élections l'ont déjà prouvé. Donc, le meilleur reste à venir.
Ouais. Et le Rassemblement National, justement, il est régulièrement accusé par ses opposants, principalement par gauchers, de représenter un danger démocratique, notamment à l'occasion justement de ce congrès où, comme d'habitude, il va y avoir des mobilisations de gauche qui justement, d'extrême gauche, de gauche aussi, qui sont annoncées. Comment est-ce que vous répondez à ces critiques ?
Bon, la réponse à ces critiques, si vous voulez, c'est un discours qui est éternel chez eux, parce que finalement, ils ont plus rien à proposer aux Français, ils ont plus d'arguments, ils savent qu'ils perdent totalement leur boussole. Bon, on le voit finalement, notamment le meilleur exemple, c'est la France Insoumise. Quand vous voyez que la France Insoumise, il y a quelques années, Mélenchon évoquait le voile comme étant un torchon, un propos qui a été assez frappant pour certaines personnes, et qui d'un autre côté... maintenant vient faire du clientélisme avec les banlieues et avec certaines communautés, soit LGBT ou les communautés étrangères. Donc si vous voulez, c'est un discours qui m'importe peu. On continue notre combat et on reste fixé sur l'horizon, notamment 2027.
Et pour revenir un peu plus sur les collectivités, il nous reste 4 minutes, mais pour revenir un peu plus sur les collectivités, le Rassemblement National passe beaucoup par les collectivités, on l'a vu avec les municipales, avec cette réussite aux municipales. Est-ce que pour vous c'est une étape qui est vraiment, disons, indispensable pour accéder au pouvoir national ?
C'est évidemment indispensable parce que pour deux points, pour le point législatif, pour avoir aussi de grands, je veux dire, pour avoir des grands élus qui pourront eux parrainer, je veux dire, qui pourront eux voter pour les sénatoriales, pour parrainer effectivement le candidat, je veux dire, en l'occurrence la candidate Marine Le Pen du Rassemblement National, ce qui ne sera pas une difficulté, et d'un autre côté aussi pour être un véritable relais auprès des habitants, une présence locale. On a toujours vanté le fait de vouloir être proche des habitants et vraiment au plus près d'eux, eh bien ça commence par le rôle d'élu local et aussi de parlementaire, parce que lorsqu'on fait bien son travail de député, on est proche de ses habitants et on est à leur rencontre toutes les semaines.
Peut-être pour terminer, mais il nous reste encore 2 minutes, mais à titre personnel, vous êtes quand même dans les jeunes élus. Vous avez donc déjà reçu des menaces. Qu'est-ce qui vous pousse déjà à continuer malgré ces menaces ? Est-ce que c'est la dynamique justement qui se passe sur les territoires avec le Rassemblement National, ou est-ce que c'est plus à titre personnel ? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer ?
Moi, sincèrement, c'est à titre personnel. Je pense que si j'avais pu m'engager avant, je me serais engagé avant, même à l'époque où le Rassemblement National n'était pas si fort, du moins dans mon département, je me serais engagé. C'est pas par opportunisme, c'est par sincère conviction politique, parce que on sait qu'on, je veux dire, on travaille, on donne énormément de temps, on est présent effectivement dans les médias, on est à la rencontre des habitants, on est présent au conseil municipal. À titre personnel, moi, ça me prend plus de, je veux dire, 2 soirées de présence en conseil municipal, les commissions aussi chaque mois, et derrière aussi du travail sur le terrain. Donc, si vous voulez, je veux vraiment être présent pour les habitants, et on ne sait pas quand est-ce qu'on gagnera, on sait qu'on va gagner, mais en tout cas on donne tout pour que ça puisse se faire et avec succès.
Oui, d'autant que là vous avez quand même des échéances importantes qui attendent Orléans et le Rassemblement National dans les prochains mois. Merci beaucoup Guillaume Boutard d'avoir été avec nous ce matin sur Ligne Droite.
Merci à vous de m'avoir reçu.
C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Et alors, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et pour continuer ces entretiens, encore une fois, il faut donner à Ligne Droite et comment soutenir Radio Courtoisie.
Eh bien, pour soutenir Radio Courtoisie financièrement, deux solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, nous soutenir en nous faisant un don en ligne sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr. Et puis, vous pouvez également envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ben merci beaucoup Arnaud. Et puis, c'est la fin des directs sur YouTube et sur X. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, nous écoutons l'entretien du 7 mai dernier avec Hervé de Liépineau, comment un maire RN reprend une ville en ruine.